Est-ce qu'on peut dire que c'est de là que vient cette espèce de comparaison qu'il fait entre l'Ancien Régime et le Nouveau Régime, où il trouve finalement beaucoup de points de ressemblance malgré la Révolution?
Oui, hein, bah, il est évident que, attention, la Révolution n'a pas tué véritablement l'Ancien Régime. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu la Restauration, quand même, avec Louis XVIII et Charles X, et puis une Restauration un peu plus larvée avec, Louis-Philippe. La noblesse est restée, donc ça n'a pas été supprimé. Donc le snobisme s'est poursuivi. D'ailleurs, Chateaubriand disait lui-même de la noblesse à l'époque, il y a eu le temps des supériorités, puis le temps des privilèges, et enfin le temps des vanités.
C'est une phrase très, très cruelle et très...
Et un peu juste.
Alors, il y a un autre chapitre dans votre livre. Donc, on a passé en vue les portraits, les politiciens et les politiques. Alors, révolution et révolutionnaire, là, il a aussi un trait assez acide sur les révolutionnaires et peut-être un peu désabusé.
Oui, c'est-à-dire, bon, Tocqueville n'est pas fondamentalement un révolutionnaire, mais c'est fondamentalement un démocrate. Et il était d'ailleurs étiqueté centre-gauche à l'Assemblée nationale où il siégeait. Et il a eu un rôle de premier plan pendant la Révolution de 48. Il a fait partie d'une espèce de comité constituant la nouvelle Constitution. Il a été ministre des Affaires étrangères de Louis-Napoléon quand celui-ci n'était pas encore empereur. Donc il a vu les gens de près. Et je crois qu'en fin de compte, il a peut-être fondamentalement plus de sympathie pour les révolutionnaires que pour les révolutionnés, si je peux ainsi m'exprimer. Il garde la tête froide. Il déteste finalement une série de gens de son époque avec lesquels il a vécu, comme Monsieur Thiers, qui était un peu sa bête noire. D'ailleurs, il disait de Monsieur Thiers qu'il n'était pas systématiquement immoral et qu'à utilité égale, il préférait le bien au mal.
Oui. Pour lui, le monde, dit-il, est une arène dont Dieu est absent, où la conscience n'a que faire et où chacun se tire d'affaire le mieux qu'il peut. Cela étant, il n'était pas systématiquement immoral et à utilité égale, il préférait le bien au mal. Voilà. À utilité égale.
Donc avec ça, on est assassiné pour de bon. Et donc, il a une certaine sympathie pour les révolutionnaires, mais enfin une sympathie un peu condescendante, se rendant bien compte qu'il ne pouvait pas arriver à grand-chose. D'ailleurs, il dit s'imaginer assez naïvement que pour arriver à vaincre, il suffisait de donner au peuple des droits sans leur donner des profits. Et c'est évidemment la raison pour laquelle ces révolutions, enfin celle des 48 en tout cas, a échoué. Donc, il les regarde avec, je dirais, la sympathie qu'un aristocrate peut avoir pour le peuple plus que pour les bourgeois. Voilà.
Alors, vous tracez dans l'introduction du livre un portrait, vous-même, vous tracez le portrait de Tocqueville. Alors, j'étais surpris de lire que vous le qualifiez de cyclotimique, timide et angoissé. Oui. Alors, quand on lit tout ce qu'il écrit, on se dit ça doit plutôt être quelqu'un qui est féroce, qui a un regard dynamique sur les choses, non?
Non, pas du tout. Bon, d'abord, il était d'une santé extrêmement fragile. Il avait beaucoup de maux d'estomac. Il était tuberculeux. Il avait des crises de foie. Et donc, c'était quelqu'un dont la santé fragile se reflétait à la fois dans son attitude et dans son visage. D'ailleurs, Ré Musin, en faisant son portrait, le dit assez, assez clairement. Donc, en plus de ça, c'était pas du tout un politicien orateur. Donc, à la tribune, les grands hommes politiques étaient en général des grands orateurs. Ce que Tocqueville n'était pas. Il était assez froid. Donc, en fait, et il l'a dit lui-même, il brille plus avec la plume que dans l'action. Et donc c'est quand il se trouve derrière son bureau avec une plume en main et du papier devant qu'il se déboutonne, qu'il se livre, qu'il est véritablement lui-même. Vous savez, le cas n'est pas unique, hein, il y a beaucoup. Bah, Corneille, par exemple, était un magnifique versificateur, mais comme avocat, il bégayait, ce qui n'était évidemment pas un tremplin pour sa carrière.
Dans le portrait d'ailleurs que Tocqueville trace de Wellington, par exemple, on apprend que Wellington est timide comme tout pour prendre la parole.
Ah oui, d'ailleurs, il a une formule assez, assez amusante. Il disait « Oh, je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire, le vainqueur de Napoléon à la Chambre des Lords. » Et finalement, je me suis retrouvé devant quelqu'un qui parlait comme un élève empêtré devant un pédagogue impitoyable. effroyable. Il boutonnait et reboutonnait sans cesse le gousset de sa culotte, comme s'il allait y chercher une inspiration qui, à vrai dire, ne découlait pas aisément de son intelligence.
Voilà. Je vois que vous avez retenu quand même certaines des citations que vous évoquez. Alors, revenons encore sur l'homme Tocqueville, mais cette fois-ci avec une formule que vous avez qui, je trouve, après lecture du livre, le définit très bien. Un homme du 19e siècle, nous parlant du 20e, dans un style du 18e.
Oui, tout à fait. Bon, il est parfaitement du 19e. Il y a pas, d'ailleurs, il n'est pas du tout pour la monarchie. Il est plutôt républicain, ce qui est déjà, disons, un critère d'appartenance à son siècle, d'une certaine manière. Mais il est aristocrate, il a un style vieille école, enfin, très, 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 très limpide, très pur. Il n'est jamais compliqué. Il est intelligent, mais il n'est pas ennuyeux. Et je dirais qu'une des caractéristiques de Tocqueville, c'est qu'il a dans ce style du 18e, avec des phrases qui sont percutantes, claires, et qui chaque fois donnent une espèce de petite jouissance de l'esprit. C'est la journée de l'orgasme aujourd'hui. Eh bien, vous ne saviez pas, j'ai appris ça aussi par hasard à la radio. Eh bien, on a l'orgasme intellectuel chaque fois qu'on a terminé une phrase de Tocqueville. Mais c'est surtout, et c'est ça qui est le plus fort, un homme du 20e, parce que il prévoit enfin, à l'époque tout ce qui se passe aujourd'hui. Notamment tous les avatars, et je dirais même les avanies de la démocratie, la suprématie de la Russie et des États-Unis, bon, qui a une tendance un petit peu à s'estomper maintenant, mais enfin qui a quand même prévalu pendant plus d'un demi-siècle, tout ça, il l'avait prévu. Et donc, il est vraiment un cheval sur trois siècles, à la fois par sa vie, son style et son intelligence.
Alors maintenant, Hippolyte Outers, on va parler un peu de vous. Comment vous est venue l'idée d'écrire un livre, de rassembler dans un livre sous le titre Tocqueville humoriste, ces propos-là? Est-ce que vous pensez que nous avons aujourd'hui besoin de ce type de réflexion, d'approche du monde?
Absolument. Absolument, parce que Tocqueville est à la fois un champion des libertés individuelles. C'est un apôtre du libéralisme modéré. Je dirais aussi, c'est un prophète de la démocratie dont il vante les mérites, mais dont il cerne les limites. Et je crois que s'il y avait un peu plus de gens comme Tocqueville, le monde d'aujourd'hui irait certainement beaucoup mieux. Parce qu'il est le champion des libertés, mais dans le cadre de la loi. Il n'a aucune, a priori, ni pour une caste sociale, ni pour l'autre, quelle que soit la caste à laquelle il appartient lui-même. C'est vraiment quelqu'un, pour moi, c'est le politicien idéal. Et je me suis parfois dit, d'ailleurs, que si on devait envoyer un représentant de notre condition humaine sur une autre planète pour montrer vraiment ce que c'est qu'un homme bien, intelligent, rigoureux et malicieux, eh bien, c'est Tocqueville que j'enverrai sur place.
Et vous l'accompagneriez, je suis sûr.
Pour être son porte-bagages. Oui, c'est pour porter ses bagages, n'importe, mais je tâcherai d'aller avec lui, oui.
Mais alors, il y a aussi un autre élément qui est finalement le fait que, vous l'indiquez, la plupart de ces textes sont issus de sa correspondance ou de ses souvenirs. Ce qui veut dire que finalement, dans les textes officiels, on trouve moins de cette liberté de parole.
Bien sûr. Il est évident que quand il écrivait notamment La démocratie en Amérique, il était un peu plus guindé. Il écrivait pour le lecteur, c'était d'ailleurs son premier livre, et donc il se compasse un peu. Mais alors dans ses souvenirs qu'il n'écrit pour personne, éventuellement pour la postérité, on a un Tocqueville dégriffé et donc débridé, et qui peut se permettre de dire un tas de choses qu'il n'aurait jamais dites. Je ne sais pas s'il savait que des lecteurs contemporains allaient lire ça. Ça, c'est bien entendu, ce sont ses souvenirs. Mais alors, il y a sa correspondance, bon, c'est des lettres à des amis, à des gens proches, à ses parents. Et là, bien entendu, il peut se laisser aller. Il dit beaucoup plus ce qu'il pense. Il le dit d'ailleurs d'une manière beaucoup plus amusante aussi. Donc c'est un autre Tocqueville que l'on trouve, encore que l'on trouve bien sûr des choses très très amusantes aussi dans La démocratie en Amérique. Enfin, disons qu'il faut déjà un peu plus chercher. Oui.
Alors Hippolyte Wouters, pour terminer cet entretien, je vais citer la dernière phrase de votre livre qui, me semble-t-il, pourrait s'appliquer aussi à vous. En un mot, son humour. On parle de Tocqueville. Son humour l'aura aidé à mieux endurer ce que son intelligence lui avait donné de mieux percevoir. Comme quoi, il y a une nécessité de l'humour.
Je crois que c'est indispensable, sans quoi la vie est un enfer.
Merci Hippolyte Wouters, en cette journée donc de l'orgasme, ce que je viens d'apprendre. Merci Hippolyte Wouters de m'avoir accordé cet entretien. Je rappelle le titre de votre dernier livre en date, Tocqueville humoriste, paru chez Michel de Maulle, et dont je ne saurais trop recommander la lecture particulièrement roborative. Merci Hippolyte Wouters.
Rencontre d'Edmond Morel.